RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. On pourrait se retrouver avec une quatrième vague de la même ampleur que les précédentes. C'est ce qu'a indiqué l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet. Il met en garde sur la flambée du variant Delta, tout en indiquant qu'il est difficile de savoir quel sera son impact sur les hôpitaux. Selon lui, il va être nécessaire de revenir à certaines mesures comme le port du masque. Et la vaccination sera la condition d'une rentrée en présentiel dans les universités. La ministre de l'Éducation supérieure s'est exprimée vendredi sur les modalités de la rentrée. Elle a indiqué que si la pandémie repartait l'an prochain, le fait que les étudiants soient vaccinés permettrait de maintenir le présentiel à 100%. S'ils ne le sont pas suffisamment, des mesures seront prises. Selon des études de Santé publique France, 71% des 18-24 ans ont entamé le processus vaccinal. Google écope d'une amende de 200 millions d'euros en France. L'autorité de la concurrence a condamné le groupe américain à payer cette somme parce qu'elle estime que dans le domaine de la publicité en ligne, Google abuse de pratiques anticoncurrentielles. Le géant d'Internet a accepté de payer l'amende. Météo, une vague de chaleur est attendue aujourd'hui au Maroc et en Espagne. En cause, la montée d'une masse venue du Sahara, un phénomène comparable à celui subi au Canada ces deux dernières semaines. 46 degrés sont attendus en Espagne et jusqu'à 50 au Maroc. Diplomatie, Pyongyang et Pékin veulent renforcer leurs liens. 60 ans après le traité d'amitié entre la Chine et la Corée du Nord, les deux pays se sont engagés à ouvrir une nouvelle phase de leurs relations. Depuis la fin de la guerre de Corée, les deux alliés ont eu de nombreux désaccords. Richard Branson s'envole pour l'espace aujourd'hui. Le milliardaire fondateur de Virgin doit décoller du Nouveau-Mexique. Il coupe ainsi l'herbe sous le pied de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, qui doit également voyager dans l'espace le 20 juillet. Richard Branson veut lancer ses opérations commerciales dès 2022. Quelques 600 billets ont déjà été vendus.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, pour commencer ce flash, on va à Bullion puisque la commune accueille les championnats d'Île-de-France, des jeunes championnats cyclistes. À 17h, il y aura la cérémonie de remise des prix en salle Parago ou en extérieur en fonction du temps. La commune d'Orsonville a décidé cette année de participer à nouveau au coût de la carte imaginaire à hauteur de 50%. Cette carte permet de voyager et d'utiliser les transports en commun. Le tarif collège est de 200 €, la subvention est donc de 100 €, le tarif lycée de 350 € et la subvention de la commune de 175 €. Il faut rapporter votre dossier complet à la mairie, tamponné par le collège ou le lycée avant. Le règlement se fait par chèque à la remise du dossier à l'ordre du Trésor public. Un premier envoi de dossier sera fait le jeudi 15 juillet, un deuxième quinzaine du mois d'août. À Rambouillet aujourd'hui, il y a un vide-grenier en musique. Il se déroule sur le parking de Smart City Campus de 9h à 18h. En Eure-et-Loire, à Épernon, l'amicale Épernon organise pendant ce mois de juillet, tous les mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h, une animation volleyball pour les jeunes de 7 à 18 ans. Tout cela se passe au stade du Closelet à Épernon. Puisque nous sommes à Épernon, parlons également de l'espace culturel Les Prairiales qui, pendant les mois d'été, vous propose des projections cinéma. C'est le mardi et le jeudi de 14h à 17h, le mercredi et vendredi de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30. Guichet réservé au cinéma, une demi-heure avant chaque séance cinéma. Le tarif, c'est de 5 € pour le plein tarif, 4,50 € pour le tarif réduit. En ce qui concerne les programmes, vous pouvez les retrouver sur www.lesprairiales.ciné.alloscine.fr ou au 02 37 18 59 20, 02 37 18 59 20. On peut se projeter d'ores et déjà au mois de septembre à Saint-Arnoult-en-Yvelines avec l'USA 78 et la Fédération française de cyclotourisme qui organisera au stade de Saint-Arnoult-en-Yvelines le 5 septembre à la rando du Bon Saint-Arnoult avec de la marche, du VTT et du vélo sur route. Il faut s'inscrire sur https://usacyclo.fr. On termine par Rambouillet qui propose avec l'usine à chapeaux et la MJC des ateliers jeux de société tout au long de la saison 2021-2022. Il faut s'inscrire à l'accueil des ateliers 32 rue Gambetta ou à la ludothèque de l'usine à jeux 1 place de l'Europe. C'est pour les 8-14 ans comme je vous le disais à l'instant. La météo de ce dimanche, c'est tout au long de la journée une alternance de nuages et d'éclaircies. On plafonnera au niveau des températures à 22-23 degrés. La nuit prochaine, ce sera très nuageux avec 15 degrés.
RVE.
L'actualité sportive, évidemment, arrive dans quelques instants, toujours présentée par Philippe Carnus, évidemment, en ce dimanche matin dans Tribune Sport. Juste avant, je vous rappelle nos réseaux avec la page Facebook Radio RVE ou encore le site radio-rve.com pour retrouver les rediffusions de nos émissions. Très bonne écoute et belle journée à tous.
RVE, vivez votre région.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.
Bah effectivement, bonjour à toutes et à tous, nous sommes là jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 18 juillet pour accompagner une belle actu sportive. On va encore se régaler en ce dimanche avec la finale de l'Euro, on y reviendra avec nos intervenants, avec une belle étape sur le Tour de France, et puis je crois savoir aussi que ça fera plaisir à Pierre qui a aussi une finale de Wimbledon, donc nos amis anglais vont être très très sollicités. Aujourd'hui, on commence avec donc Pierre. Salut Pierre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ça va, finale de l'Euro, on a vu deux belles demi-finales.
Très très belle demi-finale avec du suspense.
Oui. Oui,
et là,
oui.
On espère un gros match ce soir.
Ah, bien sûr, parce que on va parler de cet Euro, mais on s'est régalé par rapport à 2016 sur cet Euro. On va saluer José. Salut José.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, une très belle actualité encore aujourd'hui avec cette finale Angleterre-Italie qui se déroule à Wimbledon.
Wimbledon, c'est après.
Wimbledon.
C'est ça sera avant Wimbledon. C'est à côté, c'est pas bien.
C'est
pas moi. Voilà. Mais c'est vrai que nos amis anglais vont.
Et rappelez-vous, je vous avais dit que l'Italie serait irait au bout.
On va en parler.
Elle est au bout.
On va en parler. Et puis, il remplace Bibi, Bibi qui a pris ses vacances, qui est déjà parti, qu'on salue. Il va suivre cette finale là-bas sur son lieu de vacances. C'est Maxime. Salut Maxime, ça va bien?
Bonjour, bonjour à tous.
Ouais.
Ça va.
Alors,
très belle actualité sportive aujourd'hui, effectivement.
Voilà. Alors, avant de commencer sur l'Euro, Maxime, il a quand même, lui, pris le courage de suivre la finale de la Copa América. C'est l'Argentine qui s'est imposée sur un but du Parisien Di Maria, 1-0. Donc, l'Argentine qui remporte la Copa América. Maxime, un petit mot quand même, ils sont allés gagner au Brésil chez le frère ennemi.
Effectivement, le contexte était vraiment pas facile pour les Argentins, d'autant plus quand on connaît la rivalité entre le Brésil et l'Argentine. Maintenant, tout ce que je peux espérer, c'est que la finale de l'Euro ce soir soit plus sympa à suivre que la finale de la Copa, qui en deuxième mi-temps a plus ressemblé à une boucherie qu'autre chose. Énormément de fautes, le match était pas super sympa à suivre. Mais on peut noter que c'est quand même le premier titre remporté par Léo Messi avec sa sélection.
Oui, Pierre, un petit commentaire. L'Argentine, ça n'a pas été une grande Copa América au niveau du jeu, apparemment.
Non, et puis même, il y avait le contexte Covid là-bas qui était compliqué. Apparemment, certains Brésiliens étaient pour que l'Argentine gagne pour pénaliser les dirigeants brésiliens, parce que beaucoup de supporters brésiliens ne voulaient pas que ça se tienne, cette Copa América au Brésil. Mais dans le jeu, c'était des équipes très proches.
Oui.
Avec... Pas une grande variété dans le jeu et l'Argentine a su faire la différence avec un but de Di Maria dès le début du match, 20e minute, et puis après c'est vrai que ça s'est un peu attaqué les jambes avec des gros tacles. Il y a eu 9 cartons jaunes, 42 fautes, la boucherie comme disait Maxime.
Ouais.
Après l'Argentine l'a gagné de justesse 1-0. C'est le premier titre de l'Argentine depuis 93.
Ouais, c'est bien. Ça premier gros titre pour Messi en sélection nationale.
Ça, ça couronne peut-être quelque chose, ça va peut-être le libérer.
Peut-être la Coupe du Monde pour l'Argentine en 2022, qui sait.
Après, que dire, Neymar qui perd encore un titre, qui est en larmes, c'est peut-être une habitude, c'est peut-être mon cœur marseillais qui parle, mais c'était pas, l'Euro est plus sympa à suivre, c'est vrai, faut le dire.
Ouais, ouais. En tout cas, on a vu un très bel Euro, on va le dire. Il y a déjà une stat qui est énormément importante, c'est qu'est vrai qu'en 2016, je me souviens, dans ces émissions, on se disait on n'a pas été trop gâté par la qualité des matchs. C'est le Portugal qui avait gagné cet Euro en 2016. Il y a eu 108 buts. Et en préparant cette émission, on s'est aperçu qu'avant cette finale, il y a eu 140 buts dans cet Euro. Donc c'est dire quand même que on a eu des matchs de très haut niveau, mais on a eu aussi des équipes tournées sur l'offensive. Et c'est d'autant mieux que après pratiquement deux saisons non-stop, suite au Covid. Ça c'est remarquable.
C'est vrai, des matchs à suspense. Il y a eu beaucoup de prolongations. Les équipes.
Oui, mais il peut y avoir des prolongations, il se passe rien.
Oui, c'est terrible. Mais il y a eu du suspense, il y a eu des buts, il y a eu des belles équipes. On a vu des beaux matchs et c'est vrai que pour l'œil et pour le sportif que je suis, c'est super bien de regarder des matchs où il y a de l'ambiance, où il y a du jeu.
Alors justement, la semaine dernière, on s'est quitté après les quarts de finale. On parlait des gros matchs. Et bien justement, on a eu deux belles demi-finales, Italie-Espagne, qui a probablement été un match de très haut niveau sur le plan technique. Pierre nous disait, faut faire attention aux Espagnols. C'est vrai que 1-1 après prolongation, l'Italie qui s'impose 4-2 au tir au but. C'est vrai que sur l'ensemble du match, si les Espagnols avaient gagné, ça aurait pas été un vol. Par contre, sur l'ensemble de la compétition, il vaut mieux que ce soit quand même l'Italie, c'est mérité.
C'est vrai que sur ce match-là, l'Espagne avait été supérieure pratiquement sur le temps. L'Italie a beaucoup subi.
Ils ont pas flanché.
C'est vrai, mais ils ont tenu le choc, une bonne défense, un bon milieu. Et ils ont, comme je dis, subi le match. Mais bon, ça s'est joué à très peu de choses et ça s'est fini au pénalty, malheureusement pour l'Espagne, qui aurait certainement mérité sur ce match-là, je dis bien sur ce match-là, de peut-être passer ce tour. Mais bon, je suis heureux que ce soit l'Italie quand même qui soit en finale.
Sur l'ensemble du tournoi, c'est bien. C'est bien parce que l'Espagne a eu des coups de moins bien dans les matchs. Là, ça n'a pas été le cas, Pierre, en demi-finale.
C'est le meilleur match que l'Espagne fait de l'Euro, de loin. Parce qu'ils avaient sorti des très grosses purges. Je me rappelle en début de compétition, Espagne-Suède, 0-0, c'était vraiment très laborieux.
Ça a été un des matchs les moins intéressants avec Angleterre.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je m'étais dit que l'Espagne, quand même, il va falloir qu'il sorte un grand match lors de cet Euro, et que c'était l'occasion de demi-finale contre l'Italie. Ils avaient des joueurs d'une certaine expérience. On a vu un très grand Sergio Busquets pendant cette demi-finale, qui sort un grand match. Après, voilà, l'Italie a fait le dos rond, a résisté, parce qu'on connaît le jeu de l'Espagne, c'est un jeu basé sur la possession, mais malheureusement, ils n'ont pas un grand buteur, parce que Morata a beaucoup de mal, il a vendangé beaucoup d'actions.
Enfin, bon.
Voilà, en plus, il a vendangé beaucoup d'actions. Si c'était un autre attaquant, un peu plus supérieur, du style Fernando Torres à l'époque, je pense que l'Espagne serait passé.
Un matador.
Voilà, c'est ça. Après, ça s'est fini au tir au but.
Il marque un beau but quand même, hein, le but espagnol.
Oui, c'est vrai.
Il faut aussi tirer un grand coup de chapeau au gardien Aroma.
Donnarumma, oui.
Au gardien italien qui a fait un super match. Il a fait quelques beaux arrêts. Et heureusement que l'Italie, sur ce match-là, l'avait, parce que sinon, c'est pas au pénalty que ça serait fini.
Mais il y avait du suspense.
Voilà.
Oui.
C'est ce qu'on aime.
Du très haut niveau techniquement.
En espérant
de l'intensité.
En espérant que ce soir, ce soit pas fermé.
On va voir. On va en parler.
Et que ça joue.
Ça risque d'être différent, mais enfin, c'est pas le même style de jeu. Ça risque. Maxime, donc, l'Espagne qui a failli créer l'exploit, parce que c'est vrai que c'était pas une équipe qui nous avait particulièrement convaincus. Hein. L'Espagne, elle a frôlé la correctionnelle contre la Suisse. Elle a fait un bilan, un match mitigé contre la Croatie. Et un premier tour assez poussif. Elle aurait pu gagner ce match. Ça aurait pas été mérité.
Non, effectivement, on va dire que la première partie de l'Euro pour les Espagnols a été très laborieuse, et encore, je pense que je suis gentil en disant ça, parce que je pense que très très peu de monde a pris du plaisir à regarder les matchs de poule des Espagnols. Ensuite, pour revenir rapidement sur leur match face à l'Italie, certes, ils ont dominé, ils ont eu la possession, mais ça fallait s'y attendre. Mais faut pas oublier que dans l'ensemble, c'est pas eux qui se sont créé les occasions les plus franches sur le match. J'ai quand même l'impression que les Italiens, même s'ils n'avaient pas la balle,
deux trois occasions qu'ils ont vendangées quand même.
Ils ont quand même créé les occasions les plus franches. Ensuite, voilà, l'Italie s'appuie sur une défense très très solide et très expérimentée, ce qui facilite aussi peut-être la tâche d'un Donnarumma qui certes est très bon, mais c'est quand même plus facile d'être en confiance lorsqu'on a Chiellini et Bonucci en face de soi.
Oh, c'est sûr. Mais ce qui est merveilleux dans cette équipe italienne, c'est qu'elle garde son enthousiasme, mais j'ai l'impression que cet enthousiasme, ça lui permet de bien défendre et ça lui permet d'être efficace.
On voit qu'il y a une certaine complicité entre eux. On voit que c'est une bande de copains et ça se ressent sur le jeu.
Ça finit par bien tourner, on le voit
sur l'écran de télévision, et on voit qu'il respecte énormément Roberto Mancini, parce que quand il donne des indications et tout ça, les joueurs l'appliquent à la lettre.
Alors justement, j'avais regardé aussi cette semaine, parce que c'est quand même deux grosses nations de football qui se sont souvent affrontées. Eh ben, au niveau des confrontations entre l'Italie et l'Espagne, on est à égalité. Je crois qu'il doit y avoir 9 ou 10 matchs nuls, et il doit y avoir 12 victoires espagnoles et 12 victoires italiennes dans l'histoire du football international.
D'accord. Non, ouais. Après, non,
c'est quand même de grosses nations.
Oui,
football,
oui, bien
là.
Sûr.
On se rappelle que l'Espagne avait battu l'Italie 4-0
voilà,
en
c'est
finale
ça qui...
de l'Euro.
Voilà.
On se rappelle aussi non, certains matchs qui s'étaient finis au tir au but sur des Euros et des Mondiaux précédents, oui. Mais qui avaient cette fois-ci tourné en faveur des Espagnols.
Après, l'Italie, c'est une équipe qui, on l'a dit la semaine dernière, c'est une équipe qui est en mission.
Oui. Oui,
là,
oui,
ça va être, je crois que c'est leur 33e match sans défaite. Ça va être un record. Ils peuvent battre ce record.
Bien sûr.
Ils ont une équipe qui en fait ils ont fait sortir plein de nouveaux jeunes et donc du coup ils ont un banc aussi qui est plutôt rafraîchissant quand ils font rentrer Berardi, quand ils sont Verratti joue mieux qu'à Paris aussi, faut le dire,
c'est,
on le reconnaît,
c'est vrai qu'il a fait un super match
Verratti,
encore
Verratti énorme.
On a l'impression qu'il est transcendé, enfin c'est même c'est comme on le disait, c'est comme Pogba en équipe de France, ils sont ils sont heureux et libérés, on a l'impression.
On le retrouve très souvent, même en attaque.
Oui. On peut le ballon sur le troisième but, mais enfin, il n'est pas le seul responsable. Oui.
Alors, c'est une équipe jeune, je mesure mes propos, parce que c'est vrai, comme disait Maxime, Chiellini et Bonucci, c'est des joueurs vieillissants, mais qui ont beaucoup d'expérience. Oui. Mais en Italie, on sait jouer, on sait faire jouer les joueurs d'un certain âge, et on sait s'en servir à bon escient. Là, moi, c'est surtout l'enthousiasme de l'attaque. Je vois un Federico Chiesa.
Je crois que c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur joueur l'Euro avec Sterling.
Voilà, c'est ça.
Il met
énormément. Une intensité, un panache dans ses actions offensives.
Il est décisif très souvent.
C'est impressionnant.
Pour moi, c'est le meilleur
joueur individuellement. C'est dommage qu'ils aient pas Spinazzola aujourd'hui en finale parce qu'il aurait fait du mal.
Oui, mais Emerson qui le remplace, mine de rien, n'a pas fait un mauvais match.
Oui, c'est vrai.
Offensivement, il met. C'est vrai, comme disait Maxime, ils ont eu quand même des actions dangereuses. Les Italiens, ils ont mis un poteau ou deux, je crois. Enfin, il y a un poteau d'Emerson, justement. Et il y a un poteau hors jeu sur une frappe lointaine. Mais. C'est vrai que Emerson a bien rempli son rôle en piston gauche.
Oui. On peut noter que l'Angleterre, ça sera une de ses premières finales depuis 1966.
Oui,
depuis
on en parlait, José. L'Angleterre, justement, qui a battu le Danemark le lendemain, 2-1 après prolongation. Alors là aussi, ça a été un match équilibré. Oui. Là aussi, ça a été un match de très bon niveau, plus sur le plan tactique et puis physique. Bon, ça laisse quand même un petit goût d'inachevé, parce que le Danemark a quand même posé tactiquement quelques problèmes donc aux Anglais, même s'ils ont fini un peu plus fatigués que les Anglais, mais il y a ce fameux pénalty qui laisse quand même à désirer. Pierre, c'est du 50-50 ce pénalty?
Ah, moi je trouve, moi je pense qu'il n'y a pas pénalty.
Moi je pense qu'il y a pénalty. C'est un pénalty très généreux.
C'est un cadeau de l'arbitre, à mon avis.
En prolongation.
Je sais pas, mais.
Pour remercier les organes d'accueil.
Oui, peut-être, mais certainement que.
Ceci dit, dans la VAR, il faut quand même reconnaître que les arbitres, eux, ils ont quand même 8 écrans, 8 ou 9 écrans, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir dans un angle différent.
On a quand même vu sur certains angles que.
Donc, il y a contact. Peut-être très léger. Après, est-ce qu'on siffle un penalty
Je suis d'accord, mais qu'on informe et qu'on montre les images aux téléspectateurs, etc. Parce que nous, on n'a pas vu d'image qui nous montre.
C'était pas flagrant. On peut pas juger et siffler un penalty là-dessus.
Pour être tout à fait honnête, les Danois en deuxième mi-temps et en prolongation, ils jouaient plus. Ils étaient cuits.
Oui, ils étaient cuits. Mais je pense que les Anglais auraient fini quand même par passer. Ils auraient préféré.
La grande force de l'Angleterre, c'est aussi son banc avec des joueurs. Enfin, je veux dire, Marcus Rashford, il rentre jamais déjà.
La jeune équipe du Danemark nous a montré un très beau jeu quand même. Ça circulait bien, ça jouait rapide et
c'est dommage.
Et c'est dommage qu'à la fin, ils ont un peu lâché.
Mais ils ont coincé physiquement. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont subi en deuxième mi-temps et surtout dans la prolongation.
Physiquement, ils ont lâché.
Ils ont coincé. Ça aurait peut-être emmené un but, mais en tout cas, on aurait préféré que ce soit plus que ça.
En tout cas, pour le spectacle, c'était beau à voir.
Oui, un autre niveau plus tactique, plus engagé. Donc, on a eu deux beaux demi-finalistes qui sont tombés, l'Espagne et puis le Danemark. Mais les deux auraient très bien pu passer. Ça aurait pu être une finale Danemark-Espagne.
Oui, bien sûr. Le Danemark, c'est encore une fois, il y a des joueurs méconnaissables. On a l'impression que dès qu'ils mettent la tunique, le maillot de leur nation, ça les transcende. Je vois Martin Braithwaite qu'on a connu. Il a fait un match et même un euro impressionnant.
Smichel.
Oui, gardien Kasper qui est dit
le fils de Peter.
Après, c'est vrai que le Danemark, ils ont coulé physiquement, comme on l'a dit, mais sur un coup de patte, ils étaient capables quand même de mettre un but, peut-être. Et puis,
ils marquent un super coup franc.
Un super coup franc de Darmsgaard, une des révélations de l'Euro. Une des révélations de l'Euro. Mais l'Angleterre, comme je le disais, il faut rentrer Phil Foden, ils peuvent faire rentrer Jadon Sancho, ils peuvent faire rentrer Rashford.
C'est une équipe qui est quand même montée en puissance.
Ils peuvent faire rentrer le petit Grealish aussi, qui est exceptionnel. Que, je pense qu'il y a une partie du grand public a découvert Jack Grealish durant cet Euro. Et je pense que ce petit est...
C'est l'idole de Wembley.
Ce petit a un très bel avenir. Il est vraiment très très bon.
Moi, ouais, joueur d'Aston Villa qui est promis à Manchester City.
Futur joueur de Manchester City.
C'est pas fait encore, mais c'est un joueur que les Anglais aiment bien parce que il a fait des déclarations comme quoi s'il était pas à l'Euro, il serait dans les bars avec ses potes.
Ouais, comme Gascogne.
Voilà, comme Gascogne, un peu avec une petite coupe de cheveux, les chaussettes basses. Ça plaît au... C'est vrai que si on avait un joueur comme ça, ça nous plairait, j'imagine. Mais il est quand même fin techniquement et c'est quand même un joueur.
Quand vous avez Harry Kane et puis Sterling devant, quand même, vous êtes rassuré un petit peu.
Kane, il est là pour marquer des buts. Bon, c'est son rôle.
Sterling, c'est
joueur
qui est
décisif. C'est Sterling.
On l'arrête.
Le penalty, ça vient de Sterling.
Oui, Sterling.
Quand il part, on l'arrête plus.
En fait, on voit que il a pas beaucoup joué avec son équipe de City. On a l'impression qu'il est revanchard. On a l'impression que
montrer quelque chose
et qu'il est au top physiquement et que il s'enroule autour de ses adversaires, il est rapide, on a l'impression qu'il va pas réussir à passer son défenseur, mais finalement il met le grain nécessaire et il passe et il fait des différences monstres et puis il peut délivrer des centres en retrait à chaque fois sur ses côtés, c'est une arme maîtresse.
Alors messieurs, José, on y vient, Italie-Angleterre, la finale de ce soir, donc c'est vrai qu'il faut dire, on a tous des pronostics, c'est vrai que pour ce bel euro, ces 140 buts marqués pour cet euro, 2,80 par match contre 2,12 par match en 2016, il y a eu 108 buts, on va rappeler aussi qu'il y a eu 11 buts contre son camp,
c'est le meilleur buteur de l'euro.
On aimerait quand même que, pour bien symboliser ce bel euro, que ce soit l'Italie qui l'emporte, nous on est au-dessus de la mêlée, on s'en fout, mais voilà. Alors ça va être en Angleterre, devant tout un peuple qui attend une victoire anglaise d'une équipe qui est quand même montée en puissance, mais c'est vrai que sur le plan du jeu, on préférait que ce soit nos amis italiens qui s'imposent.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai répété après l'élimination de la France et du Portugal. Déjà, même avant, je vous avais dit que l'Italie avait montré en phase de poule les meilleurs matchs et le meilleur jeu.
Qui avait montré
et je ne change pas d'avis. Oui. Pour moi, bien sûr, le favori, ça reste l'Italie. Je peux me tromper. Ils peuvent même faire un match pourri ce soir, j'en sais rien. Mais ils mériteraient, comme je l'ai dit, d'aller au bout parce que c'est une équipe de jeunes, ils sont enthousiastes.
Ça symboliserait bien ce football un peu total.
C'est plus l'Italie des années 80 où il y avait un peu de cinéma, où les joueurs se roulaient. Bon, il y en a bien sûr toujours. Mais je veux dire, c'est plus la même équipe qui cherche le vice que je n'aimais pas du tout à l'époque. Et maintenant, j'admire. Et ce que Roberto Mancini a mis en place, c'est des jeunes joueurs qu'il a su construire une équipe. Et ça lui donne raison, puisqu'il est au bout. Et puis, quand on les voit jouer, on dirait une bande de copains. Et c'est très bien pour le spectacle. Et c'est très bien pour nos amis, le peuple italien.
Ouais, alors, 4 fois champion du monde, les Italiens.
C'est vrai, faut pas l'oublier.
Une fois champion d'Europe. Ils ont souvent perdu des finales à l'Euro, en 2000 et 2012, on s'en rappelle.
Notamment contre la France. Ouais.
Et l'Angleterre, donc, qui n'a qu'un titre de champion du monde, qui n'a jamais été champion d'Europe. Par contre, le match va avoir lieu à Londres, mais les Portugais avaient bien gagné au Stade de France.
Les Grecs
ont bien gagné au Portugal. Donc, il n'y a pas de raison.
Malgré qu'on dise, il y a le 12e homme, le public.
Bon, et hier, les Argentins ont gagné au Brésil.
Ils ont gagné au Brésil, pareil. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Peut-être que moi, en tout cas, je vais supporter l'équipe italienne. Mais après, nous, comme tu disais, on est au-dessus de la mêlée. Si l'Angleterre fait un super match, s'il le mérite, il le mérite. Ouais, mais je préférerais quand même que ce soit nos amis italiens qui gagnent.
Maxime ?
Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec José qui pense que l'équipe italienne est favorite. Les Anglais ont quand même cet avantage de jouer à domicile.
Oui. Il y en a qui ont perdu des finales à l'Euro à domicile. Nous, en 2016, et les Portugais en 2004.
Évidemment, mais je pense que ça reste quand même un avantage pour les Anglais qui se savent portés par tout un peuple. Juste pour revenir sur la petite stat de 2 buts relativement élevés, t'as dit 2,80.
C'est presque 3 buts par match, hein.
Oui. Je pense que malheureusement cette stat ne sera pas rehaussée ce soir, parce que malheureusement les finales sont rarement super spectaculaires.
C'est vrai que c'est souvent des 1-0 les finales de l'Euro.
Donc si j'avais un pronostic à faire pour ce soir, je dirais peut-être allez 1-0 pour l'Italie, je me lance, mais
oui, mais peu importe, ça suffit.
On verra sûrement pas 4 buts ce soir.
Mais en tout cas, il faut reconnaître quand même que le football anglais c'est plus stéréotypé, c'est moins plaisant à voir jouer, même si c'est une équipe qui est quand même montée en puissance.
Par contre, s'il y a un but de marqué dans les 5 ou 10 premières minutes, ça risque d'ouvrir le match et qu'on voit une belle finale. Par contre, si c'est un jeu fermé, cadenassé, c'est sûr qu'on va s'ennuyer. Mais je pense quand même que les Anglais vont faire le jeu. Ça fait longtemps qu'ils n'ont rien gagné. Et ils vont essayer d'ouvrir le jeu, d'attaquer et de marquer des buts. Mais c'est vrai que si les Italiens marquent en premier, ils ont le chic de savoir cadenasser puis de savoir endormir le match. Mais bon, il faut quand même qu'ils se méfient des Anglais, parce qu'avec les deux attaquants, Sterling et Harry Kane, ils vont avoir du mouron à se faire.
Oui, meilleure défense d'Italie. Alors, donc Kane... il va être musé, mais enfin, il suffit d'une fois.
Non, la meilleure défense, c'est l'Angleterre. Ils ont pris qu'un but.
Oui, c'est vrai qu'ils n'ont plus qu'un but.
Et justement, moi, c'est ce qui me fait dire que ce sera l'Angleterre qui sera favorite.
Oui.
Parce que je les vois. Après, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'Italie a un jour de récupération en plus. Est-ce que ça peut jouer ou pas? Je sais pas.
Ouais.
Mais moi, je sens que quand même la ferveur populaire peut jouer dans cette finale-là, parce que c'est sorti Covid, c'est l'Angleterre qui, depuis 66, n'a rien gagné, c'est à Wembley, les Anglais sont des vrais passionnés de foot, il y aura très peu d'Italiens, malheureusement, à cause des mesures sanitaires.
Des restrictions.
Donc, du coup, je pense que ça peut jouer. Et puis, comme je l'ai dit, l'Angleterre a vraiment des grosses cartouches sur le banc, et si ça se passe mal, peuvent faire rentrer des joueurs. Le jeu que pratique l'Italien et le jeu en général quand les équipes jouent un beau jeu, malheureusement ça n'a pas toujours fait gagner les équipes. C'est souvent des équipes pragmatiques comme la France en 98, etc. Et l'Angleterre est pragmatique cette année. L'Angleterre elle est pragmatique cette année. Elle est dirigée par Gareth Southgate, qui est un ancien défenseur.
Et le Portugal en 2016 qui n'avait pas gagné un match de poule.
Donc moi je vois l'Angleterre bien cadenasser le jeu justement. Jouer sur ses armes avec des Sterling, des Kane en contre-attaque. On verra qui sera aussi aligné ce soir, parce que peut-être qu'ils vont faire jouer Foden, Sancho, etc. On ne sait pas. Mais je vois bien l'Angleterre l'emporter. Et alors le score, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de buts ou pas, parce que c'est une fin de compétition où je pense que les organismes sont usés. Est-ce que ça peut jouer? Est-ce qu'il y aura moins de lucidité? On verra. J'espère moi en tout cas que ça sera une belle finale et que on va prendre du plaisir sur ce dernier match, parce que après on sera un peu privé de football pendant quelques semaines, même si ça va reprendre vite.
La Ligue 1 repart après.
Voilà. Donc, moi j'ai envie que ça se finisse sur une belle note, 7 euros.
Moi je me lance, je vais peut-être dire une bêtise, mais je vois l'Italie gagner 2-1.
Ah bah très bien, on verra ça la semaine prochaine.
Moi l'Angleterre 2-1.
C'est vrai que l'Angleterre est la meilleure défense du tournoi, mais sur l'ensemble des 30 derniers matchs, je crois que l'Italie a la meilleure défense que l'Angleterre. Voilà, c'est ce qu'on veut dire.
Oui, bien sûr.
Voilà, allez, la pub, la musique, puis on va aller joindre notre ami Stéphane Dezenclos, on va lui demander ce que lui a pensé de 7 euros, donc 2021.
Nouveauté à l'Abbatienne de menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans, confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur batipro-france.com.
Des vins de qualité pour votre repas de famille, entre amis, pour une réception ou un mariage, un cadeau original, un vieux millésime ou un whisky étonnant, alors plus d'hésitation. Venez découvrir au 135 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, la cave Rambolitaine. Votre caviste indépendant, votre antiquaire du vin. Pour suivre nos animations, retrouvez-nous sur notre page Facebook, la cave Rambolitaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
RVE 103.7.
And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. I said, dance all day long. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears and play upon the darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew to believe, do, share in what was true. I said, dance all days long. Dance all days. Dance all days long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her eyes to sapphire blue. And you need her and she needs you. 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 We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew to believe, do, and share in what was true. Oh, I said, that's all days long.
RVE 103.7.
Voilà, donc suite de cette émission qu'on pourra naturellement retrouver en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison. On a notre ami Stéphane Dezenclos donc au téléphone, hein, le rédacteur en chef du quotidien du sport. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane, 7 euros de foot.
Comment ?
7 euros de foot.
Ah ben, bah, il est passionnant, 7 euros de foot, il va se terminer ce soir. L'Italie a joué le premier match et va jouer le dernier.
Comment vous avez trouvé l'ensemble de ces matchs, hein? On l'a dit, on a vu quand même, on s'était plaint qu'en 2016, on avait eu des matchs très souvent fermés avec donc très peu de buts, hein. On a eu une moyenne de 2,12 en 2016 avec 108 buts. Là, avant même la finale, on en est à 140 buts, une moyenne de 2,80.
Ouais, tout à fait. Bah, tu sais, ça s'explique peut-être par le format un peu particulier, aussi la saison et le fait qu'on a vu beaucoup de il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont été assez surprenantes quand on regarde par exemple les quarts de finale. Oui. Il y a beaucoup d'équipes qui étaient en quarts de finale dont on n'aurait peut-être pas soupçonné qu'elles y soient. Donc peut-être qu'on jouait sans retenue, sans par rapport aux grandes nations. C'est ça, peut-être ceci explique cela.
Oui, et c'est d'autant plus remarquable, Stéphane, qu'on a pratiquement fait deux saisons chez les joueurs.
Ouais, tout à fait. Ouais, sur les gros joueurs, quoi, surtout.
Ouais, ouais.
Les gros joueurs, notamment par exemple ceux qui sont en finale ce soir, ça a été leur cas, en particulier par exemple les Anglais, qui ont beaucoup joué. Mais c'est vrai qu'il y a certaines équipes qui ont aussi peut-être profité de cette fraîcheur qu'il y avait. Je pense par exemple au Danemark, par exemple. Les Danois, certes, ils ont des joueurs qui jouent dans les plus gros clubs, certes, mais très peu sont finalement des titulaires indiscutables dans leur club. Donc, je pense que ils n'ont pas joué. J'ai pas le fait le compte exact, mais ils n'ont pas joué 50 matchs dans leur saison. Quoi.
En tout cas, ces deux demi-finalistes qui auraient très bien pu parvenir en finale, hein, ça s'est joué à pas grand-chose.
Bah, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, puisqu'on a eu tout s'est joué sur des pénalties, quoi. Un pénalty avant la fin du temps, de la prolongation pour les Anglais, puis une séance de tir au but pour l'Espagne et l'Italie. C'est sûr que les quatre équipes méritaient très certainement d'aller en finale.
Oui. Bon, il y a eu des grosses déceptions aussi sur cet Euro, parmi les gros. L'Allemagne qui s'arrête en huitième est battu par l'Angleterre, nos Bleus aussi qui s'arrêtent, le Portugal, la Croatie qui n'a pas confirmé. Donc il y a eu quand même des grosses déceptions.
Bah oui, il y a eu des énormes déceptions. Ouais. Bah, la principale, malheureusement, on en est tous affectés, c'est la plus grosse des plus grosses déceptions, c'est quand même bien l'équipe de France, quand même. Et je dirais après en deuxième la Belgique.
Oui.
Parce que bon, le Portugal, c'est effectivement, est-ce qu'on peut dire que c'est une déception? Le Portugal qui avait remporté effectivement l'Euro en 2016, mais qui joue contre la Belgique,
oui.
Donc qui perd contre la Belgique. Mmh. Donc même si à la vue du match, ils auraient très très certainement mérité peut-être un meilleur résultat.
Ah, c'est sûr.
C'est une déception comme ça, quoi, sur le fait, mais sur l'ensemble finalement de voir le Portugal être battu par la Belgique. C'est pas forcément une contre-performance. Par contre, la Belgique qui se fait sortir par l'Italie, je pense que c'est quand même une grosse contre-performance.
Ah bon, c'était l'Italie quand même, Stéphane. C'était l'Italie quand même.
Oui, c'était l'Italie. Mais là, quand on parle de déception, on parle par rapport aux prévisions ou par rapport à l'état au début de la compétition, quoi. Au début de la compétition, même avant les premiers matchs, même si on a été un peu emballé par l'Italie dès ses premiers matchs, je veux dire, franchement, moi, j'aurais pas pensé que l'Italie batte la Belgique, quoi. C'était peut-être possible, mais ça reste une déception. Faut dire que les Belges, ils vivent ça comme une déception, par rapport au foot, à la situation en général des deux équipes, quoi. Mais alors, bien sûr, ça n'a pas non plus de points communs avec la France, où là la France c'est plus qu'une déception, c'est énorme, quoi. Donc c'est vraiment le plus gros vide de cet Euro, quoi, malheureusement pour nous.
Ouais, qu'est-ce qui a manqué à nos Bleus? Un peu de fraîcheur physique, quand même 3-1 devant la Suisse à un quart d'heure, on doit ne pas perdre le match.
Ben, je vois de fraîcheur physique, mais peut-être aussi de fraîcheur physique. Bon, ça, il a manqué, je pense, pas mal de choses à la fin, de la fraîcheur physique et de la solidarité, un sens collectif que cette équipe avait pas, ce qui est assez bizarre parce que il y a 3 ans, c'est ce qui lui a permis notamment de remporter la Coupe du Monde, et il n'y avait pas tant de changements que cela. Moi, je crois pas trop à la thèse d'avoir mis de retour de Benzema, qui a effectivement peut-être nuit aux performances, au rendement d'Antoine Griezmann, par exemple. Mais c'est pas parce que Benzema est revenu que Pogba s'est engueulé avec Rabiot, qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé derrière, quoi. Le fait que Benzema est revenu, c'est surtout le fait qu'ils ont marqué beaucoup de buts, et notamment dans ce match-là, 3 buts, quoi. Donc, il y avait, c'est clair qu'il y avait cette manque de je pense, cette manque de solidarité. Et quand vous menez, effectivement, 3-1 à 10 minutes, je crois que c'était à 10 minutes, même je crois que le 3-2, il a été marqué à la 85e.
Oui, c'est ça.
Le deuxième but des Suisses, donc à 5-6 minutes de la fin, et ça pousse très fort. Bon, on l'a vu, ceci dit, dans d'autres matchs. Hein, il y a eu ce genre de retour. Il y a eu beaucoup de buts inscrits dans le dernier quart d'heure ou dans les 10 dernières minutes qui ont permis, notamment, je pense, aux Croates, par exemple, qui ont permis contre les Espagnols.
Moi, c'était l'Espagne, mais c'est trop.
Aux équipes d'aller à la prolongation. Maintenant, donc là, il faut résister, il faut être fort mentalement, il faut être fort collectivement, être sûr de soi. Puis bon, visiblement, ça nous a manqué. Alors après, il y a effectivement manqué un peu de fraîcheur physique, notamment sur des joueurs peut-être comme Kylian Mbappé, bien qu'il n'ait pas paru. C'est vrai que les Bleus, on leur a reproché un peu ce manque physique, mais Kylian Mbappé, personnellement, on n'a pas vu, comme à une période cette saison avec le Paris Saint-Germain, il était en manque d'accélération, en manque de vivacité, il a surtout été en manque de réussite. Hein. Encore une fois, contre la Suisse, par exemple, le but qu'il marque n'était pas forcément un but très facile à mettre, mais pour lui, oui. Pour lui, oui. Quand il aurait largement pu le mettre. Là, c'est pas un problème, je pense, de vivacité, c'est un problème d'efficacité, parce que voilà. Donc, il est manqué plein de choses. Après, on peut débattre pendant 100 ans la composition du groupe, Deschamps qui pour la première fois avait quand même pris plus d'attaquants que d'habitude, où il avait dit avant l'Euro, lors de la présentation de la liste, j'adore les attaquants à tous. Et si on regarde ces listes de ses précédents grands tournois, donc 2 Coupes du Monde, 1 Euro qu'il a dirigé, c'est celle où il a pris le moins de défenseurs. On se retrouve avec des soucis quand même en défense. Peut-être que s'il avait, ou alors on l'a peut-être pas en France, peut-être que s'il avait eu un latéral droit plus fort que n'était Koundé, par exemple, il aurait peut-être, ce serait peut-être passé Pavard plus souvent. Et s'il avait eu, bien sûr, là je ne vous parle pas du côté gauche, mais bon, on ne peut pas trop non plus le voir, il y en avait deux, les deux se blessent, quoi. Donc,
bah oui, en plus. Bon. Voilà. En tout cas, Deschamps devait rester, c'est la bonne nouvelle de la semaine, il reste au moins jusqu'en 2022.
Ouais, alors la bonne nouvelle, ça dépend pour qui, hein.
Oh, je pense quand même qu'il fallait qu'il reste.
Il y en a qui vont expliquer, dès que c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est ni une bonne ni une mauvaise. Ouais, c'est ouais. Oui, si, c'est peut-être même plutôt une bonne nouvelle, parce que faut pas tout casser comme ça pour un accident qui s'est passé à l'Euro. On a des joueurs qui sont très jeunes, beaucoup de joueurs de l'équipe sont jeunes, donc c'est un groupe avec lequel il va continuer, alors que changer d'entraîneur, c'est plutôt quand on arrive dans une fin de cycle de dire qu'il faut changer. Je pense que Deschamps sera changé comme d'autres pour certains postes, hein. Je parle comme d'autres ont su changer avant lui, je pense à Aimé Jacquet par exemple, qui a emmené un groupe de 96 à 98, hein, si on regarde l'évolution de son groupe, mais qui a su changer aussi des joueurs importants de son équipe qui sont nés en 96, à l'Euro 96 en cours, comme Thuram, Lizarazu, compris les places de latéraux par exemple, quoi. Donc, je pense qu'il saura le faire. Effectivement, ça aurait été, d'après moi, un peu ridicule de tout changer maintenant, parce qu'il y a eu une séance de tir au but perdue, quoi. Donc ouais. Voilà.
Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Italie, Angleterre, vous voyez comment cette finale?
Ben, je la vois très très équilibrée, ouais. Déjà.
Bien sûr.
Hein, entre deux équipes qui finalement se ressemblent un petit peu. Pour moi, je dirais avantage Italie, bien que le fait que le match déroule à Wembley va peut-être permettre à l'Angleterre de faire la différence. Mais ouais, c'est très équilibré. En tout cas, un match vraiment très équilibré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les quatre équipes de demi-finale pourraient être en finale ce soir, quoi. Donc c'était déjà très très équilibré. Je serais pas surpris, vraiment pas surpris, par qu'on aille encore à la prolongation, voire au tir au but, des choses comme ça, quoi.
Bon, par contre, vous êtes beaucoup plus modéré, beaucoup plus sceptique concernant la formule hein, de cette Euro, Stéphane, de cette ah, qu'on oui. a voulu fêter l'Europe à travers cette Euro, les 60 ans. Hein. Vous êtes beaucoup plus sceptique, quand même.
Oui, très très sceptique même, parce que, et je pense que je suis pas le seul,
oui.
parce que je me suis attardé à faire un petit calcul qui est assez assez. Quand vous avez une compétition comme par exemple bon, la Coupe du Monde en Russie ou l'Euro en France en 2016, vous avez 7 matchs, si l'équipe qui reçoit, donc qui est haute, va au bout, vous avez 7 matchs pour l'Euro par exemple, 7 matchs sur 33 qui manquent d'équité sportive. On va dire, hein, clairement, ça manque un petit peu d'équité sportive quand vous jouez à domicile. Dans l'Euro que nous venons de vivre, il y en a eu 25 sur 33 qui ont été dans ce cas-là.
Oui, 25 sur 33.
Quand même, je pense que c'est quand même un changement très très important. Il y a eu 25 équipes, 25 matchs qui se sont déroulés avec une équité sportive un petit peu bafouée, dans le sens où il y a une équipe qui joue à domicile, quoi. Mmh. 25 sur 33, c'est quand même énorme, quoi. Mmh. Donc, on peut prendre des exemples. Bon, mais ça n'a pas eu
forcément. Oui, l'Angleterre, l'Italie, qui ont joué leur premier match à domicile, quoi.
Voilà. Bon, mais ça n'a pas forcément. Alors, on peut me répondre et c'est.
Après, il y a le terrain. Hein.
Comment ?
Il y a le terrain après. Hein. On peut très bien perdre des matchs quand même. Hein. Oui.
Voilà, exactement. Et puis surtout que si les quatre équipes qui ont joué les demi-finales étaient des quatre équipes qui ont joué tout leur match de groupe à domicile. C'est pas pour ça que certains n'ont pas su non plus en profiter, quoi, du fait de jouer à domicile. Par exemple, je pense aux Écossais, mais bon, la différence était peut-être énorme. Quand on a joué 2 sur 3, je crois, de leur match de groupe, ils les ont joués à domicile, à Glasgow, mais n'ont pas forcément tous su en profiter. Donc, c'est pas pour réduire le niveau sportif de l'équipe, quoi. Mais quand même, 25 sur 33 qui sont perturbés, qui n'ont pas une équité totale, et puis alors l'énorme problème auquel Michel Platini, parce que c'est Michel Platini hein, qui a voulu instaurer cette formule, n'avait pas surpensé à l'époque, c'était la pandémie, quoi, qui fait que dans certains matchs, vous avez ce soir par exemple, là c'est la finale, c'est à Wembley, vous n'aurez que les Italiens de Londres qui pourront supporter l'équipe, quoi. Alors que quand vous avez un France-Portugal au Stade de France en finale de l'Euro, vous avez, en plus, il y a beaucoup de Portugais à Paris, mais vous avez la moitié du stade carrément qui est aux couleurs du Portugal, quoi. Les Portugais sont venus par milliers pour assister à la rencontre, quoi. Mais là, ils ne peuvent pas faire pour... Voilà, ça, c'est... Alors là, c'est la finale, donc on peut dire que l'Angleterre jouait à domicile 7 euros, mais ça a été le cas pour bien d'autres rencontres, quoi. Donc, c'est en plus mal tombé que ça a mis l'accent dessus. Mais moi, personnellement, je ne suis pas... Je trouve que ça fait trop, quoi. 25 équipes, qu'aurait fait si l'Euro avait eu lieu en Angleterre, qu'est-ce qu'aurait donné à France-Hongrie, à Wembley, donc au niveau température, au niveau tout ça, et absence des supporters hongrois, qui d'ailleurs, au passage, viennent de se faire. La Hongrie a été sévèrement punie par l'UEFA. Hein,
tout à fait normal.
Pour l'attitude de ses supporters. Donc on peut dire que dans le 1-1, mais qui a eu finalement aucune influence, si ce n'est peut-être la fatigue, et très certainement d'ailleurs le soleil, l'effort fourni par les Français pour avoir un match nul, au niveau de la fatigue, certainement ça a eu de l'influence, mais qu'est-ce qu'aurait donné ce match s'il avait eu lieu dans un pays organisateur, si par exemple l'Angleterre était le pays organisateur de l'Euro 2020, quoi.
Très bien. Stéphane, juste un petit mot sur la Copa América, la victoire de l'Argentine donc au Brésil, 1-0. Ça n'a pas été un grand match, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
Ouais, écoutez, c'est en tout cas un résultat qui je pense, était attendu par tous les Argentins pour Lionel Messi. On a vu à la fin du match, c'est quand même assez, assez incroyable. Hein. À la fin du match, tous les Argentins se jettent sur Lionel Messi, ils ont porté Lionel Messi. Alors certes, il est meilleur buteur, il est meilleur passeur de la compétition, mais dans ce match-là, il n'a pas été décisif. Et ils le font sauter en triomphe et tout, parce qu'ils ont... C'est quand même bien que le plus grand joueur, certainement, de l'histoire du foot, hein, je suis désolé, ou à égalité avec Pelé, si on veut, gagne au moins un trophée avec, avec son équipe nationale, quoi. Mmh. Donc, c'est finalement, quelque part, c'est, pour ça, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Les Brésiliens l'ont gagné, ont gagné la dernière édition. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça fait quand même plaisir que le plus grand joueur, et quand on a vu l'engouement des Argentins après le coup de sifflet final, ça fait quand même assez plaisir, quoi. C'est assez notable.
Oui, en attendant peut-être 2022, hein, pour les Argentins.
ouais. Est-ce que Messi sera là en 2022?
On peut penser quand même une petite saison encore. Hein.
Ouais.
Bon Stéphane, pour finir, je sais que vous êtes concerné par un vide écurie qui va se dérouler au centre équestre des Brévières la semaine prochaine. Samedi 17 juillet de 10h à 18h, on pourra vendre des couvertures, des selles, des tapis, du matériel d'attelage, de protection, des tondeuses et tout ça à petit prix, hein. Faut tout brader.
Ouais, tout à fait. En fait, on pourra surtout acheter parce que le club ferme.
Et oui, malheureusement.
Et donc ce déleste de tout ce matériel. Il y en a beaucoup, et puis bien sûr à des prix très très intéressants. Donc moi, je suis, en tout cas, j'y mes enfants et qui adorent l'équitation, ils seront et ils seront. C'est particulièrement intéressant, bien sûr, tout à fait. Ouais.
Alors il y a deux numéros de téléphone, hein, si on veut prendre des rendez-vous, c'est le 06 87 80 37 61 ou le 06 41 80 19 15. Voilà. Merci Stéphane. Bonnes vacances. Bonne fin d'euro.
Merci Philippe, bonne journée, ouais. bonne journée à tous, bon dimanche.
Voilà, à très bientôt. Allez, merci avec notre ami Stéphane, on va écouter la page de pub et puis la pause musicale. Juste avant, je voulais quand même recueillir vos impressions. Stéphane a trouvé que l'équité sportive avait peut-être pas été tout à fait remplie à travers la formule de 7 euros. C'est-à-dire beaucoup d'équipes ont joué plusieurs matchs à domicile.
Je suis d'accord.
Oui.
Je suis d'accord parce que quand on voit l'Angleterre, ils ont fait... Ils ont beaucoup joué à Wembley, le plus loin qu'ils sont allés,
l'Italie, c'est Rome. L'Italie à Rome aussi.
Alors qu'il y a des équipes qui sont allées jusqu'à Bakou en Azerbaïdjan.
Oui. En Russie. Danemark, je crois.
Danemark. Ouais, c'est... Alors, je pense que c'est Michel Platini qui avait voulu cette formule pour fêter les 50 ans de l'Euro.
Ouais. Avec la pandémie, ça s'est pas arrangé.
Voilà. Mais sur le papier, ça pouvait être une bonne idée. Après, je pense qu'il fallait essayer de restreindre un peu les kilomètres pour que ce soit plus beau. Mais je pense que ça sera pas refait et que
des choses plus conventionnelles. Ça sera en Allemagne en 2024. Ouais. Mais c'était pour commémorer les 60 ans du championnat d'Europe. Voilà. Puisque ça a commencé.
Je suis assez d'accord que c'est pas une bonne formule et qu'on revienne à la formule antécédente et qui était beaucoup mieux pour tout le monde.
Maxime aussi, hein, je crois qu'il est d'accord aussi. Hein.
Oui, tout à fait, puisque comme je disais tout à l'heure, les quatre équipes qu'on a retrouvées en demi-finale avaient cet avantage d'avoir joué l'intégralité de leur match de poule à domicile. Donc effectivement, l'équité sportive est faussée par cette formule. Donc autant revenir à la formule.
À l'ancienne formule.
Bah, on y reviendra. C'était exceptionnel cette année. Hein.
Mais c'était pas une bonne idée.
Enfin. Non, pas forcément.
Ouais, et puis il y a eu la pandémie qui a malheureusement pas arrangé les choses. Ça devient difficile pour déplacer pour beaucoup de nos confrères. Et même pour les joueurs et joueuses. L'environnement.
Voilà, c'est un manque de respect aussi pour les supporters qui, pour certains, ont dû faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour suivre plusieurs matchs de leur équipe. Donc, il faut pas oublier la part des fans et des supporters dans le foot.
Allez, la pub et la musique, on y va.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie Béchouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie, bijouterie, joaillerie, Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée, avec Creative Design. Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée, sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21 20.
Vous êtes un particulier ou un professionnel? Vous souhaitez réaliser des travaux dans le neuf? Rénover et mettre aux normes vos installations électriques? Programmer et gérer efficacement votre chauffage électrique? Plus d'hésitation, contactez la société Brifo Électricité, votre spécialiste. Devis gratuit et dépannage rapide. Brifo Électricité, 01 30 46 11 56 et sur brifo-électricité.com.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Allez, allez, on y va donc pour cette émission. Hein, donc la fin de cette émission. Didier Deschamps qui reste. José, on l'avait dit la semaine dernière.
Oui.
On s'est pas trompé.
Oui, bon, c'est une bonne chose quand même. Stéphane avait l'air de pas être trop d'accord.
Mais... Si, il avait dit que c'était bon, mais, qu'il fallait pas changer. Mais, voilà.
Mais
il avait dit qu'il fallait pas changer. Pas changer. Il était mieux.
Jusqu'à la Coupe du Monde.
Oui, 2022.
Voilà.
2022, puis on a le droit. On a le droit d'avoir un échec. Il y a des entraîneurs.
Je trouve que jusqu'à maintenant, on va pas taper sur Didier Deschamps. Il a fait du bon boulot jusqu'à maintenant. On va pas. On va pas dire du mal de lui. On a toujours dit du bien. Et c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui sait tenir ses joueurs.
Et puis on
sait pas parce qu'on a. On est sur un échec qu'il faut tout de suite taper dessus et le virer. Ouais. Là, je suis pas d'accord.
Ouais. Didier Deschamps qui reste, c'est officiel. Hein. Je vais confirmer.
Non, je pense que comme disait José, je pense que de la continuité ne fait pas de mal. C'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'il faut remettre en cause tout le travail qui a été effectué jusqu'ici. Je sais qu'en France, beaucoup de personnes aiment avoir la mémoire courte et juger sur l'instant T, mais il faut pas.
C'est bien dire ça, Maxime.
Il faut pas oublier ce que c'est Didier Deschamps a apporté à l'équipe de France.
Oui, bon, Pierre, une Coupe du Monde. Ouais.
Pierre, faudra attendre pour Zidane. Hein, faudra attendre après le Qatar 2022, quels que soient les résultats, parce que Deschamps peut aussi partir sur un succès. Hein,
oui,
comme l'avait fait Michel Hidalgo ou Aimé Jacquet.
Hein. C'est tout sauf une surprise que Didier Deschamps reste sans douter à 99,9%.
Ouais.
Moi, je sais pas quoi dire, j'ai pas trop d'avis là-dessus, ça me dérange pas. Après, s'il y aurait du changement, ça m'aurait pas dérangé non plus.
Pas maintenant.
Non, c'est vrai que je pense qu'on peut continuer encore un petit peu. La chose qui est, c'est compliqué parce que la Coupe du Monde en fait va arriver vite. Donc du coup, tout chamboulé maintenant, ça aurait peut-être eu des conséquences plus graves.
Bah, dans les
on verra après la Coupe du Monde 2022. Voilà. Après, pour l'instant, l'euro est encore en cours. Je pense qu'il faut qu'il y ait des choses qui se règlent en interne. Là, il y a des choses qui sortent sur l'équipe de France, comment ça s'est passé à l'Euro. Il va falloir que tout ça reprenne vite une belle tournure et que Didier Deschamps remette les esprits à l'endroit. et que les joueurs, je sais pas, se discutent et une vraie discussion et que on reparte en avant, parce que sinon, je pense que en 2022, si on continue comme ça et qu'il n'y a pas des choses qui se règlent entre en interne, ça peut mal se passer.
Eh ben, on verra ça. Oui. Messieurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison à travers Tribune Foot et puis tout au long de cet Euro. Il y a 30 secondes, on parlera du Tour de France la semaine prochaine, on fera le bilan. 30 secondes, Pierre, pour Djokovic, qui va peut-être faire 20 grands chelems contre Berrettini, un Italien. Sacrée journée pour les Italiens.
Première finale d'un Italien à Wimbledon.
Ouais, ouais.
Première finale pour Berrettini d'un grand chelem.
Ouais, donc,
je crois qu'il n'y aura pas de surprise.
Voilà.
Je crois Djokovic, il est en mission pour atteindre la barre des 20 grands chelems et surtout la dépasser plus tard. Grand favori Djoko, et je pense qu'il va l'emporter.
Très bien,
et
c'est Barty, l'Australienne, qui a gagné chez les femmes hier en battant Pliskova 6-3, 6-7, 6-3. Merci à Guillaume, et puis bah,
merci,
on sera là la semaine prochaine pour un bilan de la finale et puis du Tour de France. Bon dimanche à toutes et à tous. Restez-nous fidèles en cette semaine du 14 juillet sur l'antenne d'Hervieux, et plus que jamais, vive le sport et vive l'Euro. Salut.
Salut.
Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. On pourrait se retrouver avec une quatrième vague de la même ampleur que les précédentes. C'est ce qu'a indiqué l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet. Il met en garde sur la flambée du variant Delta, tout en indiquant qu'il est difficile de savoir quel sera son impact sur les hôpitaux. Selon lui, il va être nécessaire de revenir à certaines mesures, comme le port du masque. Et la vaccination sera la condition d'une rentrée en présentiel dans les universités. La ministre de l'Éducation supérieure s'est exprimée vendredi sur les modalités de la rentrée. Elle a indiqué que si la pandémie repartait l'an prochain, le fait que les étudiants soient vaccinés permettrait de maintenir le présentiel à 100%. S'ils ne le sont pas suffisamment,